C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour la 64e émission des boulons. C'est Marianne ici et je suis en co-animation aujourd'hui avec Yannick. Bonjour Yannick.
Bonjour Marianne, bienvenue à tous.
Qui va nous, aujourd'hui nous montrer les progrès qu'elle a réalisés en anglais au cours de cette émission.
Je ne parle plus.
Elle ne commence déjà pas à parler, mais on va la faire parler aujourd'hui. Nous accueillons autour de la table Fabien qui est là aujourd'hui pour la première fois parmi nous. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Cathy.
Bonjour.
Julien.
Bonjour à tous.
Vanessa.
Bonjour.
Et Charlie.
Salut tout le monde.
Alors, je vais vous présenter le sommaire de cette émission. Pour démarrer, nous aurons donc une chronique sur le système solaire qui sera présentée par Julien. En anglais, le système solaire, Yannick ?
Attends. Solar System.
Voilà. Ensuite, Charlie nous présentera une rubrique qui elle-même est déjà intitulée en anglais.
Life is Strange.
Puis nous aurons Cathy qui nous présentera sa chanteuse du moment, c'est-à-dire Angèle, avec une pause musicale. Ensuite, nous interviewerons la cadre supérieure de l'hôpital, qui est Madame Palu. Bonjour Madame Palu. Ensuite, Michel nous parlera de Jean-Pierre Papin. Thomas nous parlera d'un nouveau chanteur.
David Bowie.
Il y aura une pause musicale du même.
Musical break.
By David Bowie. Ensuite, notre ami Christophe viendra nous présenter un film.
Trading Place.
Voilà.
Trading Places.
Un canapé pour deux. Et puis, nous terminerons avec Martine, qui viendra nous parler d'une de ses chroniques inspirées, La vie d'un arbre.
The Life of a Tree.
Yes. Suivi d'une dernière pause musicale qui nous sera présentée par Charlie. Tout de suite, yes. Nous démarrons. Ça va être beau en anglais aujourd'hui. Tout de suite, nous démarrons avec Fabien, qui est là, donc, comme je vous le disais, pour la première fois et qui a une petite improvisation pour nous. Bonjour.
Bonjour. Clopin, clopin, s'en allaient des béquillards, des boitreux, des gendarmes et des ivrognes. Soufflant aux vitres des cafés une buée à perdre sans navire. Les sirènes de 7 heures disaient à tous, il est temps d'être ivre.
Merci beaucoup. C'est de toi ?
C'est quelque chose que j'ai entendu à la radio il y a des années de ça. C'était une cassette qui traînait dans mon sac à dos quand j'étais ado. Sac à dos, ado, c'est marrant.
Tout à fait.
Et voilà, ça a fini noté sur un cahier et dans le cerveau.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup de ta participation qui est vraiment très sympa pour cette première fois. Ouais. Et à bientôt. Alors, on attaque donc la première partie. Julien, tu vas nous parler du système solaire.
Exactement, bah ça change un peu d'habitude. Donc, je vais commencer aussi. Le système solaire, c'est l'ensemble des astres soumis à la gravitation du Soleil. Selon certains, il mesure environ 20 milliards de kilomètres de diamètre et s'arrête à l'héliopause, la limite où les vents solaires sont arrêtés par le milieu interstellaire. La lumière met environ 17 heures pour parcourir la distance entre le Soleil et l'héliopause et par comparaison, elle met seulement 449 secondes à arriver sur Terre. La vitesse de la lumière, donc c'est 300 000 km/s. Précisons tout de même, la forme de l'héliopause étant ovale, les données varient de 20 milliards à 52,5 milliards de kilomètres. Ovale en fonction de la direction si c'est face au vent interstellaire ou si c'est de l'autre côté en fait. Dans ce système solaire, on dénombre de nombreux astres, une étoile, donc notre Soleil, 8 planètes qu'on connaît tous. Alors il y avait un moyen mémotechnique avant, c'était mon vieux m'a jeté sur une nouvelle planète, mais vu qu'il n'y a plus Pluton, on ne peut plus, avec les initiales, vous savez, les premières lettres de chaque planète.
Macrostiche.
Ouais, il y a 5 planètes naines qui sont en général assez loin du Soleil. Cérès, Pluton, Oméa, Eris et Makemake. Les satellites de ces planètes, naines ou pas, qui sont au nombre de 200 environ, et environ 200 petits corps comme des astéroïdes et des petites comètes. Je vais faire un petit topo sur les principaux astres pour cette chronique. Donc le Soleil et donc notre système solaire se trouve dans le bras d'Orion, un endroit éloigné de 26 100 années-lumière du centre de notre galaxie spirale qui s'appelle la Voie lactée. 99,85% de la masse du système solaire, c'est le Soleil. Il est par exemple 333 000 fois plus massif que la Terre. Notre étoile, qui est une naine jaune en langage d'astronome, est composée principalement d'hydrogène à 74% et d'hélium à 24%. Pour les initiés en physique-chimie, il crée de l'énergie par fusion de l'hydrogène en hélium. Alors moi, je ne comprends pas grand-chose là-dessus, mais... Je vais passer à Mercure, la première planète, la plus proche du Soleil. C'est une planète rocheuse, comme les quatre premières du système solaire, située à entre 47 et 70 millions de kilomètres du Soleil. C'est la planète des extrêmes, puisqu'il y a 600 degrés d'écart entre le jour et la nuit. Plus précisément, entre moins 173 et plus 427 degrés selon la période du jour ou de la nuit. L'année dure 3 mois terrestres, elle met donc 3 mois à tourner autour du Soleil. Vénus, c'est une autre planète rocheuse, donc elle se trouve à 108 millions de kilomètres du Soleil et c'est la plus chaude de toutes. Et pour cause, il y fait en moyenne 462 degrés. La Terre, bon, on la connaît tous. C'est la seule qui abrite une forme de vie évoluée telle que nous la connaissons, grâce notamment à son eau qui recouvre 72% des 509 millions de kilomètres carrés de la surface du globe. Mars est surnommée la planète rouge. Elle est à la limite de la surface habitable et certains pensent qu'elle était habitable il y a très longtemps. Elle est aussi rocheuse. Après ça, après Mars, en fait, il y a une ceinture d'astéroïdes qui contient la planète naine Cérès. Ensuite, on atterrit sur Jupiter. C'est la plus grande des planètes que l'on connaisse de notre système solaire. Elle est cette fois-ci gazeuse et mesure 139 820 km de diamètre. Elle a plus de 50 lunes, dont Europe, pour en citer une bien connue. C'est aussi la première planète à s'être formée autour du Soleil. Saturne est en orbite à environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, soit deux fois plus loin que Jupiter, et est célèbre pour ses anneaux composés de glace d'eau qui la rendent particulièrement belle, enfin je trouve. Elle a plus de 60 lunes et une année là-bas dure 29 ans.
Ah ouais, on vieillit pas vite là-bas. Hein.
Bah, du coup, Uranus, elle est deux fois plus loin que Saturne encore. C'est une géante de glace. Elle est composée d'une couche de glace de 10 000 km d'épaisseur. L'année dure 84 ans. Wow. Et son atmosphère planétaire est la plus froide du système solaire, avec une température minimale à moins de 224 degrés. J'ai bientôt fini. Neptune, c'est une autre géante de glace où il y fait très froid, entre moins 218 et moins 200 degrés. Comme Saturne, elle aussi possède de fins anneaux et des satellites au nombre de 14, et elle est tellement loin que l'année dure 165 ans. La ceinture de Kuiper, c'est une autre ceinture d'astéroïdes, en fait. Bah, elle est bien connue aussi. Elle est située après l'orbite de Neptune, la dernière planète connue. C'est une ceinture d'astéroïdes où la majorité des corps sont composés de volatiles gelés. Elle contient entre autres Pluton, Mathémaché et Oméa, qui sont, je le rappelle, les trois autres planètes naines découvertes dans le système solaire. Sa distance au Soleil est de 30 unités astronomiques pour son commencement et 55 unités astronomiques pour sa fin. Une unité astronomique étant la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres pour une unité astronomique. Bah, là, j'ai fini. Quoi. Je vais juste citer deux étoiles remarquables. Alors, R136A1, avec 250 fois la masse du Soleil, elle est de loin l'étoile la plus massive connue. Elle brille autant que 10 millions de soleils. Et la deuxième étoile remarquable, c'est UYSCUTI, qui a 1,189,352,136 km de rayon. Imaginez si la Terre était un ballon de plage de 20 cm de diamètre, et bien le Soleil mesurait 22 mètres et UYSCUTI aurait un diamètre d'environ 38 km. J'ai fini.
J'ai une question à te poser, Julien.
Ouais.
Gasquet, le monsieur, l'astronaute, là, est-ce qu'il doit apprendre tout ça pour faire son métier ?
Qui ça ? J'ai pas compris.
Monsieur Gasquet.
Monsieur Gasquet, ben je sais même pas c'est qui en fait.
C'est l'astronaute.
Pesquier. Je sais pas du tout. Bah, je pense pas qu'il doit apprendre tous ces termes techniques. Après, je pense qu'il s'est un passionné, donc il doit savoir quand même. Ouais. Mais je sais pas si c'est vraiment utile en tant qu'astronome de savoir tout ça.
Ok, merci beaucoup Julien, merci Cathy pour la question. Alors, pour la rubrique suivante, je vais vous demander, Yannick, de bien vouloir nous traduire ce que j'ai là devant moi sur le tableau, parce que je ne comprends pas tout.
La vie est étrange.
La vie est étrange, Charlie, mais qu'est-ce donc ?
La fille strange, donc la vie est étrange. Alors déjà, premièrement, on va faire rapidement une fiche technique. Donc là, je vais me concentrer sur le premier opus qui est sorti le 30 janvier 2015, qui a été développé par Don't Node et édité par Square Enix, donc les darons de Final Fantasy et qui ont aussi racheté Tomb Raider. Bon, voilà. Donc c'est un jeu qui dure environ 20 heures, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des pauses de 3 heures entre quelques chapitres. Je dis ça, je suis pas votre daronne, et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, dans ces jeux-là, ça parle beaucoup de problèmes familiaux, voilà, dont les problèmes familiaux de Maxine Copperfield et Chloe Price, donc, qui est un trouble borderline. Littéralement. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, c'est une histoire un peu fictionnelle. Donc, c'est-à-dire que, il y a un peu des super-pouvoirs qui se passent dans un monde assez réaliste. Donc, premièrement, on voit que Maxine se réveille suite à un rêve où elle voit une tornade. Elle apprend dans son bahut qu'elle peut contrôler le temps de quelques secondes. Et ce qui lui permet donc de changer un peu le cours des choses. Et ce qui peut donner au joueur, donc, qui est un jeu narratif au passage, de changer un peu les choses, un peu à sa manière. Donc, ce qui a permis de renouer des liens avec sa meilleure amie Chloé. Donc voilà, donc, qu'on apprend plus tard qu'elle a certains soucis que je vous laisse le loisir de découvrir. Donc on peut influencer en bien ou en mal l'histoire. Par exemple, on peut soit réussir à sauver une témoin de Jéhovah ou pas. Donc ça dépend de notre capacité à empathie. Le personnage peut être plus ou moins curieux selon les interactions du joueur avec son environnement. Parfois, ça peut être j'ai pas trop les mots de la curiosité. De la curiosité malsaine. Tu vas intervenir, Mélissa ?
Oui, je voulais te demander, c'est sur quelle console ?
Alors, il me semble que tu pouvais le trouver à l'époque sur PS3. Tu peux le trouver sur PC, sur Steam. Il y a eu un remaster plus élaboré qui est sorti récemment, qui est développé par Deck Nine, donc, qui ont aussi développé le tout dernier Life is Strange, A True Color, donc, qui parle aussi des émotions, tout simplement. Voilà, donc c'est un jeu qui m'a personnellement réussi à me toucher, ce qui est plus ou moins, on va dire, rare dans certains jeux, donc c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup les jeux narratifs.
Oui, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les jeux vidéo narratifs, s'il te plaît ?
Les jeux narratifs, donc, ce sont des jeux qui racontent vraiment une histoire, qui ont un propos, qui peut se jouer de manière posée, donc on n'a pas besoin de chercher une performance pour y aller. Vraiment, il peut y avoir des phases de puzzle et tout. Donc, ce qui est bien, c'est que le jeu peut avoir une fin qui est moins pire et l'autre qui est juste catastrophique, okay. Littéralement.
Okay. On va arrêter là donc pour cette rubrique. On te remercie. En tout cas, c'était intéressant.
Très bien.
Et puis, tout de suite, on va céder la parole à Cathy. Oui. Qui va nous parler aujourd'hui d'une nouvelle chanteuse qui est Angèle. On t'écoute, Cathy.
Merci. Après la vague, un album intime et sincère à marée basse. Avoir autant squatté les ondes et réuni autant de foule dans ses concerts, sold out, qu'allait proposer Angèle. Réponse avec 95, qu'elle a dévoilé le jour de ses 26 ans. Isolée pour cause de Covid, Angèle s'est consolée en sortant son deuxième album une semaine avant la date. Musique, La loi de Murphy, Je veux tes yeux, Tout oublié avec son frère Roméo Elvis, Balance ton quoi, Lui ou non, Flou. Autant de chansons qui ont jalonné, parfois précédé la belle carrière de son premier album, Brawl, écoulé à 2,5 millions d'exemplaires, les chansons d'Angèle sont la bande originale fraîche et simple d'une génération qui cherche le bonheur, qui danse, qui veut capter le regard des autres sur Instagram. vit ailleurs, qui dit stop au sexisme et s'interroge parfois sur son orientation sexuelle. Ce portrait d'une génération alliée à une musique joyeuse et des mélodies qui se retiennent vite lui a valu un succès fulgurant, ce qui lui a amené beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de doutes et de questionnements sur sa place, son mérite et son avenir. Tout cela est très bien décrit dans le documentaire que Netflix lui consacre et dans lequel elle lâche « Personne n'est prêt pour ça ». Quand Angèle commence à écrire son deuxième album, il y a tout ça, coincé dans sa plume, et beaucoup de choses à exorciser. Les démons qu'elle a bien choisi de chanter avec le rappeur Damso. Un confinement loin de sa ville de cœur à qui elle offre Bruxelles, je t'aime. Une ville sociale et un public à retrouver. Donc je vous propose d'écouter Flou, un titre d'Angèle.
Merci, vous souhaitez une bonne écoute.
J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou. Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, de perdre la tête en enfer, la suite on verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou, beaucoup trop fou.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De retour pour la 64e émission des Boulons, l'émission des Boulonnais. J'ai toujours à ma droite mon acolyte Yannick.
Nous attention.
Attention.
Attention. Acolyte. Radio programme. L'émission, c'est radio programme.
64.
Yes.
Allez. Nous accueillons pour cette deuxième partie autour de la table Michel qui va nous faire sa rubrique sportive, Thomas avec sa rubrique musicale. Nous avons un deuxième Fabien qui est là aussi pour la première fois aujourd'hui, qui vient assister à l'émission avec nous, avec toujours Cédric à la technique et Luc dans les parages. Et puis, on va commencer tout de suite cette deuxième partie avec une interview de Madame Sandy Palu, qui est chef de pôle et d'addiction en santé mentale.
Cadre supérieur.
Excusez-moi, vous allez avoir l'occasion de répondre à toutes ces questions qui vont vous être posées par Vanessa et Cathy. Bonjour, Madame Chef.
Bonjour à tous.
Bonjour, Madame Palu.
Il y a tellement de jeux de mots à faire avec vous, vous pouvez y aller.
Excusez-moi. Donc, bonjour Madame Palu, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Donc moi j'avais qu'un seul indice par rapport à vous, c'est que effectivement vous êtes cadre supérieur de santé. Je voulais vous demander où se trouve le centre dans lequel vous travaillez, enfin le...
Le centre, c'est-à-dire quel est
l'établissement dans lequel je travaille.
D'accord. Oui. Donc, je suis la cadre supérieure de santé du pôle santé mentale du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Donc, qu'est-ce que la santé mentale? Ça regroupe à la fois la psychiatrie avec toutes les structures qui sont en intra, en extra, le CMP par exemple, mais aussi la dictologie. Voilà.
D'accord. En quoi consiste la responsabilité de votre poste ?
Le cadre supérieur de santé travaille pas seul. Il travaille en équipe avec l'équipe d'encadrement, Yannick par exemple. Et notre mission, c'est de faire en sorte d'apporter les ressources et les moyens pour que quand on a un médecin qui prescrit un soin pour une personne, le soin puisse se dérouler de façon la plus fluide possible, tout en étant en sécurité et en adéquation avec toutes les normes qu'on nous impose au centre hospitalier maintenant.
D'accord.
Voilà.
Il y a Cathy qui veut vous poser aussi
Bonjour,
une question.
Bonjour Madame Palu.
Bonjour Cathy, comment allez-vous ?
Très bien. Je vais vous poser comme question, quel parcours avez-vous en quelques mots ?
Alors, en quelques mots, j'ai d'abord été infirmière sur un EPSM, c'est un établissement de santé mentale, c'est pas très loin d'ici, c'était à Camier. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, ce qu'on appelle la pédopsychiatrie. Oui. J'ai ensuite été responsable d'un institut médico-éducatif, donc de travail avec les enfants qui présentaient des handicaps physiques et psychiques, avec des retards de développement. Et puis depuis mars, je suis avec vous sur le centre hospitalier et j'en suis ravie. Voilà.
Merci.
D'accord. Je voulais vous poser la question, oui, du coup, vous avez répondu depuis mars, hein, c'est bien ça ?
Depuis mars, oui, tout à fait.
D'accord.
Donc je suis arrivée en milieu connu, puisque j'avais déjà eu la grande joie de travailler avec Yannick, mais aussi avec les cadres des autres structures. Voilà.
Que préférez-vous dans votre métier ?
Ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire des rencontres. C'est-à-dire être avec vous, le partage, les bons moments, c'est important, ça donne du sens à mon métier et puis ça donne du sens aussi au fait qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse, par rapport aux personnes extérieures, leur montrer que voilà, la santé mentale, c'est quelque chose qui est à prendre en compte et qu'on peut expliquer, qu'on peut communiquer et qu'on peut prendre plaisir à être tous ensemble.
J'ai pas d'autres questions.
Qu'avez-vous l'intention de faire au sujet des familles d'accueil ?
Oui, ça c'est une question qui nous préoccupe. D'ailleurs, on a remonté cette question auprès de notre chef de pôle. Donc le chef de pôle, c'est le psychiatre qui est en charge de toute l'équipe médicale. Oui. Et on a aussi posé cette question auprès de notre directeur, Monsieur Porse, puisqu'il est important de faire des recrutements pour pouvoir continuer à offrir la possibilité pour les patients qui en ont besoin d'être en famille d'accueil et de pouvoir continuer à évoluer dans un cadre bienveillant et puis dans un cadre sécure.
Oui, c'est important. Moi, je vois, je suis en famille d'accueil. Et c'est toutes des interrogations au cours de notre parcours. Mais on n'a pas toujours les bonnes réponses, quoi.
Mais Monsieur Porse, le directeur de l'établissement, a été sensibilisé lors de notre dernière grande réunion de pôle. C'est important et c'est un dossier que je vais suivre.
Oui, je suis rassurée.
Je l'espère. En tout cas, comptez sur moi.
Merci. Ben, ça se termine, Madame Padu. Je vous remercie d'avoir témoigné par rapport à nos quelques questions. Quoi, et bonne continuation.
Merci pour ce bon moment.
Ouais, ben merci vraiment. C'était super agréable de vous écouter. C'était court. Merci pour les mots que j'ai entendus. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ça me réconcilie avec une certaine image que j'ai pu avoir de la psychiatrie. Et merci pour la bienveillance. On va tout de suite passer à Michel, qui va nous parler aujourd'hui d'un footballeur.
Oui.
Alors, je ne vais pas dire où je l'ai connu, parce que j'aime bien me répéter. Ouais. Michel, je te laisse nous parler de Jean-Pierre Papin. Et je pense, fais attention, que Yannick est au taquet pour te tacler.
Non. Moi, ça ne me dérange pas. Si je peux répondre...
Non, on travaille toujours ensemble quand on fait les rubriques sport.
Hein. En équipe,
on est une équipe.
Donc, bonjour aux auditeurs. Je vais donc vous parler d'un sportif natif de Boulogne-sur-Mer, exactement le 5-11-63, soit il a 58 ans, il aura 59 ans au mois de novembre. En l'occurrence, l'ex-footballeur Jean-Pierre Papin, qui vient de fêter le 30e anniversaire de son ballon d'or, décerné en décembre 1991. Jean-Pierre Papin, dit JPP, a débuté sa carrière professionnelle à Valenciennes en 1984-85, puis à Bruges, en Belgique, en 1985-1986, où il s'est fait remarquer par ses talents de buteur, 25 buts, avant d'être enrôlé par l'Olympique de Marseille, qui jouait les premiers rôles dans le championnat de France de football. Ici précisé qu'il a gagné la Coupe de Belgique avec Bruges. Alors, JPP joue à Marseille de 1988 à 1992, où il fut meilleur buteur du championnat les mêmes années, et champion de France en 89, 90, 91, 92, et vainqueur de la Coupe de France en 1989. Il a été transféré après sa période marseillaise au Milan AC, où il fut deux fois champion d'Italie. En 1999-1995, il a joué au Bayern de Munich et a fini sa carrière d'abord à Bordeaux, en 96-98, et à Guingamp pendant 5 mois. Et il ne faut pas nous oublier non plus qu'il a fait également les beaux jours de l'équipe de France de foot, où il a été sélectionné à 54 reprises, de 1986 à 1995, au cours desquels il a marqué 30 buts. Il a disputé la Coupe du Monde en 86 avec l'équipe de France. Pour résumer, Jean-Pierre Papin a joué 580 matchs professionnels et a marqué 324 buts, toutes compétitions confondues. Ces buts, on les qualifiait d'ailleurs de papinades. C'était un mot qu'on employait, qu'on avait trouvé pour... Puisqu'il marquait dans toutes les positions. Il marquait des buts invraisemblables. Et il n'y avait que lui qui pouvait réaliser ses prouesses. À l'époque, il était le troisième Français à être distingué pour cette récompense du Ballon d'Or, après Coppa et Platini, car il avait effectué une saison exceptionnelle en 91. Il avait marqué 49 buts, toutes compétitions confondues, lors de cette année. Il a tenté, après sa carrière, d'entraîner une équipe professionnelle, notamment Strasbourg et Lens, mais ce n'a pas été très probant. Il entraîne actuellement une petite équipe, Chartres, qui joue en National 2, c'est-à-dire la 4e division. Ce qu'on peut retenir de la carrière de Jean-Pierre Papin, c'est le courage qu'il déployait sur le terrain et la sympathie qu'il dégageait. Voilà.
Il n'a jamais joué à Boulogne, alors ?
Non, il a débuté en jeune à Jeumont, à côté de Maubeuge. Ses parents avaient dû émigrer par là.
Il me semble qu'il a joué aussi à l'US Lèche-Cap-Ferré.
Oui, hein, oui, exactement.
Et puis aussi, il a entraîné le bassin d'Arcachon, l'équipe du bassin d'Arcachon.
Oui.
Ouais, parce qu'il a une maison là-bas, je pense.
Oui, c'est vrai.
C'est une génération de footballeurs où ils ont beaucoup investi sur le bassin d'Arcachon.
Oui, il a terminé sur ces clubs-là. Il était...
Parce qu'il était au Girondin, il a fait une...
Oui, il a fait une saison au Girondin. D'accord. Voilà.
Bravo, Michel. Alors, JPP, c'est aussi Jean-Pierre Pernaut, je le dis. Il y a deux personnes en France qui ont les initiales JPP. Il y a lui et Jean-Pierre Pernaut.
Oui, Jean-Pierre Pernaut, je ne crois pas qu'il ait joué au foot.
Non, je ne crois pas. peut-être, on ne sait pas. On regardera.
On ne le sait pas.
En tout cas, merci, Michel. C'était une belle un bel hommage à JPP. Allez, David merci. Bowie, let's go.
C'est parti, Thomas.
Bonjour à tous. Je vais vous parler de David Bowie. Donc, de son vrai nom, David Robert Jones. Qui est musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il a été aussi acteur. Pour parler vite fait de sa mère, elle s'appelait Margaret Mary Burns. Elle était ouvreuse de cinéma. Son père, c'était Heywood Stanton Jones, qui était aux relations publiques d'une association caritative qui s'appelait Barnados. Il est né le 8 janvier 1947 à Londres. Il se montre élève doué et déterminé, mais plutôt bagarreur. Donc, on va voir ça plus tard. Il fera ses débuts entre folk et variété après un détour par le mime dans la seconde moitié des années 60. Je vais vous parler un petit peu de son enfance. Donc, à la Burnt H. Juilliard Junior School, il a 8 ans. Sa voix est jugée passable par la chorale et il joue apparemment mieux de la flûte à bec que la moyenne. À 9 ans, il se distingue lors d'un cours de danse où il fait preuve d'une grande imagination. Les professeurs le remarquent. Pendant cette période, grâce aux 45 tours de son père, il découvre des groupes comme les Teenagers, c'est pas très connu, mais il y a plutôt les Platters, Fats Domino, Elvis Presley évidemment, et Little Richard. Ça l'interpelle beaucoup, donc il décide de se mettre à la musique. Il se met au ukulélé et à la contrebassine pour jouer avec ses copains, puis il apprend le piano. Donc il est au lycée technique de Bromley pour étudier l'art, la musique, le design. Et c'est à cette époque-là aussi que son demi-frère aîné lui fait découvrir le jazz moderne de l'époque. Donc il s'enthousiasme pour Charles Mingus et John Coltrane. Sa mère, qui remarque la chose, lui offre un saxophone en 1961, et donc, dont il prendra des cours avec Ronnie Ross. En 62, au lycée, toujours, il a une blessure à l'œil gauche après une bagarre. Et en fait, sa pupille restera perpétuellement dilatée. C'est ça le secret de son regard. On a souvent cru qu'il avait un iris d'une couleur différente de l'autre. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est dû à une blessure. Il a une pupille qui est perpétuellement dilatée. Donc ça lui donne un regard très, très particulier. En 62, toujours, donc, il jouera dans son premier groupe les Conrads du rock'n'roll. En 63, tellement motivé, il annonce à ses parents son intention de devenir vedette pop. Alors, apparemment, il l'a décidé, donc c'est assez impressionnant, parce que quand on sait ce qu'il est devenu. Après, il passe par un groupe, les King Bees, en 64. Il sort son premier 45 tours, c'est un échec commercial, sous le nom David Jones with the King Bees. Ensuite, il essuiera les échecs au fur et à mesure du début des années 60 avec son groupe les Manish Boys, encore un échec commercial, un autre groupe The Lower Third. Il décroche d'autres contrats et en juin 1967 sort son premier album intitulé David Bowie. Alors Bowie, ce pseudo, ça vient d'un pionnier américain, les aventuriers qui ont découvert l'Amérique, qui s'appelait James Bowie et qui a laissé son nom à un couteau, le couteau Bowie. Je disais, après des débuts donc dans le folk et la variété, comme je viens d'expliquer, il se fait connaître le 11 juillet 1969 avec la chanson Space Oddity, qui est là et signée chez un très grand groupe, Philips Records. Donc il y introduit le personnage de Major Tom, un alter ego récurrent dans son œuvre. Il obtient assez vite la notoriété avec le personnage flamboyant de Ziggy Stardust, qui est la figure de proue du courant glam rock, avec l'album The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972. Ensuite, il va commencer à s'intéresser aux musiques noires, comme le R&B, la soul, le funk. Il décrochera son premier numéro 1 avec la chanson Fame, en 1975. Donc ensuite, il s'expatrie à Berlin-Ouest, où il travaille avec Brian Eno. C'est une des grandes figures de la musique électronique de l'époque. Et donc on sortira de 77 à 79 ce qu'on appellera la trilogie berlinoise, les trois albums Low, Heroes et Lodger. Et en fait, cette trilogie berlinoise est considérée comme un de ses sommets artistiques. Dans les années 80, il devient une icône pop avec le titre Let's Dance, que tout le monde connaît en 1983, dont le coproducteur est Nile Rodgers. Nile Rodgers, il est assez connu, il est ressorti ces dernières années parce qu'il a travaillé avec Daft Punk sur Get Lucky. Et c'était le guitariste de Chic, le groupe disco, le Freaks et Chic, tout le monde connaît. Donc voilà, il compose le tube Let's Dance en 1983 avec Nile Rodgers. Ensuite, il formera un groupe Teen Machine. Dans les années 90, il continue à s'essayer à de nouveaux genres, comme ça peut aller de la house à la techno, la musique industrielle, tout en restant très rock. Et après, à partir des années donc 90, son activité musicale va se raréfier, surtout après 2004 d'ailleurs, et sa dernière prestation scénique, ça aura lieu en 2006. Pour parler un petit peu de ses rôles d'acteur, et donc il aura son premier grand rôle en jouant un extraterrestre dans L'Homme qui venait d'ailleurs. Il jouera Jarrett, le roi des gobelins, dans le film Labyrinthe, un très joli film, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça me rappelle mon enfance toujours. Moi, ça. Le Major Jack Sellier dans Furio, le vampire John Blayback dans Les Prédateurs, il jouera Andy Warhol aussi dans le film Basquiat, Ponce Pilate dans La Dernière Tentation du Christ, et Nikola Tesla, l'inventeur de la pile électrique, dans le film Le Prestige. En 2013, donc après un désert, il sort son dernier album, The Next Day, et en 2016, Black Stars. Voilà. Donc, puis ensuite, le 10 janvier 2016, après un cancer du foie, il décède à New York. Voilà. Donc, je vous laisse écouter maintenant un morceau emblématique de David Bowie, Ashes to Ashes.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Janik, de nouveau, nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de cette émission des boulons, l'émission des boulonnés. How are you?
Fine, fine, thank you. Okay. It's a nice day.
Yes,
beautiful day. We are very happy to be here.
Yeah, on va éviter de finir l'émission en anglais tout de même.
J'en ai marre que tu te moques.
Je ne me moque pas, je n'oserai pas.
Je vais en parler à mon prof. Allez Christophe, on va pas le,
ouais,
on va le déstabiliser.
Pour la troisième partie,
là.
On a autour de la table Christophe et Martine qui viennent de nous rejoindre avec toujours les deux Fabien, Charlie, Michel. Et nous allons tout de suite écouter donc Christophe qui va nous parler d'un film, je vais vous le dire en français. Donc c'est Un fauteuil pour deux et Janik en anglais c'est comment ?
Trading Places.
À toi Christophe.
Alors bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, je me présente, je m'appelle Christophe. Alors non, je ne vais pas vous présenter une rubrique sur la musique, mais bel et bien sur le cinéma. Alors, le cinéma, les classiques, à mes yeux. Alors, je sais très bien que tous les goûts sont dans la nature et que les films que je vais vous présenter ne feront pas l'unanimité. Mais à mes yeux, ce sont de très bons films, un peu oubliés, un peu anciens, j'en conviens. Connu certainement de beaucoup de gens, mais certaines personnes ne les ont peut-être jamais vus. En ont déjà entendu parler, auraient peut-être aimé les voir sans trop savoir à quoi s'attendre. C'est pour cela que je vais vous donner mon avis concernant différents films, aussi bien français que étrangers. Alors, je ne suis pas critique de cinéma, loin de là. Il ne s'agit que de mes goûts personnels. Si jamais vous cherchez un bon film à regarder, voici mon avis. Alors, pour le premier film que je vais vous présenter, bon, alors j'ai choisi un film non césarisé, non oscarisé, du moins à ma connaissance. Alors, la prochaine fois, je vous présenterai un film plus sérieux et plus émouvant. Bon, il faut bien un début, alors j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une comédie américaine qui, il y a quelques années, je le reconnais volontiers, mais ça n'en reste pas moins un bon divertissement. Ce film s'intitule « Un fauteuil pour deux », avec le très bon acteur Eddie Murphy, Dan Aykroyd et l'éblouissante Jamie Lee Curtis. Alors, c'est un film drôle et attachant, qui fera aussi bien rire les petits que les grands. Avec une idée de scénario comme on n'en voit que dans les films. La vie réelle, non, j'ai jamais entendu parler d'une pareille situation, mais bon, je suis pas au courant de tout non plus. Peut-être que cela m'a échappé, mais j'ai un léger doute quand même. Alors, tout commence avec Eddie Murphy, qui, on peut le dire, enquiquine les gens dans la rue. Alors, désolé pour les plus jeunes. Enquiquiner, vous ne connaissez peut-être pas. Alors, cet Eddie Murphy embête les gens dans la rue pour avoir des faveurs, de l'argent ou tout ce qu'il peut obtenir. S'ensuit qu'il se fait arrêter par la police suite à un quiproquo dans un établissement de placement de fonds en bourse. S'ensuit les deux dirigeants de cet établissement qui font un pari ensemble en faisant en sorte d'échanger l'existence de leur meilleur employé de placement de fonds, c'est-à-dire Dan Aykroyd, avec la vie du trublion Eddie Murphy. S'ensuit tout un tas de situations drôles auxquelles Jamie Lee Curtis va se retrouver mêlée. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le film ou le redécouvrir. Pour certains, c'est un bon divertissement humoristique qui, à mes yeux, est un bon film drôle et attachant. Alors, cela s'intitule « Un fauteuil pour deux ». Donc, bon divertissement à tous. La prochaine fois, je vous présenterai un autre bon film dont j'ai une petite idée, mais rien n'est encore décidé.
Dit-il en rigolant.
Oui, ah, oui, oui. Dit-il en rigolant. C'est ça.
Il me semble qu'Eddie Murphy, il simule un handicap moteur
oui,
important.
Oui,
hein,
au départ, oui, au départ.
Vous avez
oui.
raison, c'est un vieux film.
Ouais, 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 bah, pas si vieux que ça non plus. Hein,
quand même.
Oui. Oh, et pas tout neuf, pas tout nouveau, mais ah. quelques années.
Allez, on va passer maintenant. Merci beaucoup, Christophe, pour cette rubrique. On va passer à Martine, la reine des médecines douces, qui va nous parler des arbres. Allez, Martine.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je vais vous parler aujourd'hui de la vie d'un arbre. Ouvre ton cœur à la vie, ton histoire est l'humus qui te nourrit quotidiennement. Enracine-toi profondément à la terre, déploie tes branches dans le ciel et remplis-toi de lumière. Pont entre le ciel et la terre, les arbres jouent un rôle essentiel sur notre planète. Chaque individu est un microcosme où cohabite la conscience collective de l'espèce, l'esprit du végétal, les esprits soigneurs et les esprits ayant élu domicile dans ou autour de celui-ci. À ce monde invisible s'ajoutent ensuite différents habitants visibles et mobiles, rampant ou volant. Ici, nous nous focalisons sur l'esprit du végétal. Lorsque l'arbre est à l'état de jeune pousse, Gaïa, la conscience de la planète Terre, choisit de le nourrir ou de le laisser dépérir, suivant son plan d'harmonie. Si elle décide de le conserver, elle entre alors en contact avec ce que nous pourrions appeler une source cosmique et demande à ce qu'un esprit vienne l'habiter. Celui-ci veille à la croissance de l'arbre, à son adaptation à l'environnement, rythme des saisons, changements divers, et communique aussi bien avec les esprits des végétaux qu'avec d'autres esprits de la nature, comme les nains, véritables spécialistes en soins. Le message transmis par l'arbre est le suivant. L'esprit de l'arbre nous invite à devenir arbre à notre tour, l'espace d'un instant. Nous, les humains, avons tendance à courir tout le temps dans toutes les directions, oubliant la nature de notre essence et le sens de notre incarnation. L'arbre, lui, est fixe. Les saisons se suivent, les paysages évoluent, les époques se succèdent, il est toujours là. Spectateur de la vie qui se meut autour de lui, il reste droit et poursuit son évolution en accord avec les forces de la terre et du ciel, et ce, quoi qu'il arrive. Au fil des années, il se remplit de lumière, assurant sa croissance tant physique que spirituelle. Arrivé à un âge avancé, il atteint le stade dit « arbre-maître ». L'esprit de l'arbre a alors transcendé sa propre nature. Totalement réalisé et débordant de lumière, il irradie sur plusieurs dizaines de mètres autour de lui. Cela nous suggère de sortir de notre agitation quotidienne, de faire une pause, d'avoir un regard sur notre passé afin de l'intégrer, de nous reconnecter aux forces naturelles et de nous aligner sur notre propre réalisation. Dans la pratique, sortons et partons en promenade. Intérieurement, faisons le vœu de rencontrer un arbre avec lequel nous avons une affinité particulière, un arbre ami. Marchons dans la direction que nous montre notre cœur. Laissons-nous guider lorsque nous l'avons trouvé, approchons-nous de lui doucement, de manière à ce que nos corps vibratoires puissent se rencontrer et communiquer silencieusement. À sa hauteur, enlevons nos chaussures si la météo le permet. Posons nos pieds nus sur le sol, faisons une offrande selon notre intuition. Avec un outil ou simplement avec nos mains, cherchons une des sous-couches de sa bulle énergétique et gardons le contact aussi bien dans la sensation physique qu'avec notre attention. Prenons un moment. Ressentons la présence de l'arbre et de son esprit intérieurement. toujours en contact avec une sous-couche, nous pouvons maintenant interroger ce dernier sur différents sujets qui nous intéressent. La réponse positive signifiée par une augmentation de la bulle énergétique, la main est poussée vers l'extérieur. La réponse négative est marquée par un rétrécissement de la bulle. La main est aspirée vers l'intérieur et la sensation de présence d'une paroi éthérique disparaît. Nous avons fait connaissance et pouvons passer à l'étape suivante. Invitons l'esprit de l'herbe à sortir du végétal et à se placer devant nous. Il se forme progressivement jusqu'à se stabiliser. Encore une fois, prenons contact avec nos mains ou nos outils et cette fois-ci, demandons-lui l'autorisation de nous mettre à l'intérieur de lui. L'expérience peut se vivre en position assise ou debout. Une fois à l'intérieur, fermons les yeux et portons notre attention sur nos ressentis. L'esprit nous transmet son vécu. Nous devenons un arbre. Observons les mouvements que cela génère en nous. Laissons-nous être traversés, puis remplis de lumière. Ce partage peut engendrer des prises de conscience et constituer un moteur d'évolution. Lorsque nous sommes arrivés au bout de l'expérience, remercions l'esprit, sortons de son corps éthérique et accompagnons-le avec notre attention et notre bienveillance vers son habitat végétal. Je vais terminer par une citation d'Eckhart Tolle. Cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme.
Merci beaucoup Martine. Wow,
on s'endort, ça nous apaise, on s'endort.
C'est vrai.
La musique en fond, c'est top, hein. Bravo.
Bien bon, bah voilà, la belle connexion. On arrive déjà à la fin de l'émission, Yannick, vous vous rendez compte?
Ouais, ça passe si vite.
Quand on est en bonne compagnie.
Very good, very good, very nice.
Alors, juste pour information, la prochaine émission aura lieu les 26 et 27 mars à 13h et 15h.
15h, ouais, c'est ça.
Merci Cédric, à la technique de confirmer. Merci à tous, ça a été super sympa de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Je pense que nous n'avons oublié personne. Ils ont tous été cités à un moment ou à un autre de l'émission.
Tu as oublié personne.
J'ai oublié personne.
Et bravo aux nouveaux qui ont intégré
l'équipe.
Merci
aux deux nouveaux Fabien. Alors, il faut trouver un moyen de vous dénommer, Fabien et Fabien, parce que
sinon, on ne va pas s'en sortir.
On ne va pas s'en sortir. Et... Donc, je vais simplement laisser Charlie nous présenter la pause musicale finale. Nous, on vous dit à bientôt, Yannick.
À bientôt.
À bientôt.
Donc, la dernière pause musicale, c'est une OST de Life is Strange, donc, qui se passe à la fin du premier chapitre. Je vous laisse ce moment de nostalgique.
Somewhere. You're somewhere I could go there, but I don't. Rob's in the kitchen making pizza. Singing songs about the future.